Sermon pour le troisième dimanche après Pâques. Chers fidèles, à la fin de sa vie, lors de la dernière scène, après avoir institué l'Eucharistie, notre Seigneur déclara à ses apôtres « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour dont parle Jésus n'est pas un amour ordinaire, mais bien un amour propre aux disciples du Christ, un amour appelé à devenir le signe distinctif des chrétiens dans le monde. Cet amour porte un nom particulier, celui de charité. Il ne se confond ni avec l'affection familiale, ni avec l'amitié, ni même avec la passion humaine. Il s'agit d'un amour d'un autre ordre aux multiples facettes, et l'épître d'aujourd'hui en donne une parfaite illustration. Nous connaissons tous très bien l'injonction de notre Seigneur à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous persécutent et à donner à ceux qui nous réclament. Cet appel à une charité héroïque demande quelques explications, sans quoi ce commandement resterait sans effet, tant il paraît difficile, voire impossible. Lorsque les disciples cherchèrent à exprimer l'amour surnaturel dont leur parlait Jésus, ils ne forgèrent pas un nouveau mot, mais adoptèrent un terme déjà répandu dans la langue de leur époque, celui d'agapé. S'ils choisirent celui-ci plutôt qu'un autre, c'est qu'il était le plus propre à exprimer la richesse et la diversité de sens que le mot « charité » devait manifester. En effet, dans la langue grecque courante, le mot « agapé » exprimait déjà la bienveillance envers autrui, les honneurs rendus à une personne, le respect, la considération, la bienfaisance, etc. Autant d'aspects que l'on retrouve encore aujourd'hui dans notre vertu théologale de charité. Ce que firent les apôtres et qui transforma définitivement l'usage de ce mot, ce fut de pratiquer cette vertu envers tous. À partir de la Pentecôte, elle ne se limitera plus à la famille, aux proches ou aux compatriotes, mais s'étendra à l'ensemble des hommes. Plus encore, elle ne sera plus simplement un conseil, mais une obligation, une règle absolue à suivre. Les chrétiens, s'ils veulent être appelés de ce doux nom, doivent cette charité à tous, indépendamment des conditions, de l'état ou de la bonté des personnes. C'est ce que saint Pierre exprime parfaitement dans son épître. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il va même plus loin, puisqu'il enjoint les esclaves à servir fidèlement leur maître, même ceux qui sont difficiles envers eux. Saint Pierre ne pose donc aucune condition à l'exercice de la charité. Mais cela veut-il dire qu'il faut aimer son prochain comme on aime sa famille et ses proches? La réponse est non, pour la simple raison que l'amitié implique une réciprocité. Si votre prochain ne vous aime pas, il ne peut y avoir amitié au sens propre. Ce n'est donc pas de ce genre de sentiment que nous devons aimer ceux qui nous persécutent. Comme je le disais au début, si le mot agapé a été choisi par les apôtres, c'est en raison de la multitude de sens qu'il contient. L'agapé que nous manifesterons aux autres prendra ainsi des formes et des modalités différentes en fonction de notre relation à eux. Votre prochain est-il un supérieur ? L'agapé devra se manifester par l'honneur, le respect, la considération et l'obéissance. Soyez donc soumis à cause de Dieu, nous dit saint Pierre, à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui. Votre prochain est-il un frère dans la foi? Aimez-le d'une dilection plus particulière encore, comme Dieu le Père met et continue de mettre toute sa complaisance dans son Fils, pour des raisons évidentes de similitude et de perfection. Votre prochain est-il un ennemi? Priez pour lui, pour sa conversion, faites-lui du bien, rendez-lui service s'il vous le demande, conseillez-le s'il y est disposé. La charité ne vous demande pas de cesser de haïr le mal qu'il accomplit ou qu'il exprime, mais de lui témoigner à lui une véritable bienveillance et une réelle bienfaisance. D'ailleurs, le contraire de la charité n'est pas tant la haine que le mépris, le dédain ou la vexation. De tels sentiments sont incompatibles avec l'état de chrétien. Néanmoins, Dans la vie de tous les jours, nos prochains ne se divisent pas en catégories bien définies d'amis et d'ennemis, mais plutôt en un entre-deux qui varie selon nos humeurs ou les comportements des uns et des autres. C'est précisément dans ces conditions ordinaires et fluctuantes que nous sommes appelés à vivre une charité authentique. Dans notre vie quotidienne, la charité nous fera rechercher le bien de l'autre en toutes circonstances. Ainsi, aimer de charité, ce sera non seulement vouloir le bien de celui que l'on aime, mais encore se réjouir ou s'attrister du bien ou du mal qui lui arrive. De même, toute attitude qui attriste ou blesse le prochain sera incompatible avec la charité. Celle-ci suppose un cœur bon, noble et généreux, capable de douceur, de miséricorde et de compassion, à l'image du bon samaritain qui procura un bien total à une personne dont le peuple le méprisait. Celui qui aime vraiment ne cherche donc pas son propre intérêt, mais celui des autres. Il agit avec discrétion et respect, évitant tout ce qui pourrait blesser ou humilier. Il ne se laisse pas emporter par la vanité, ni par la colère, ni par l'animosité. Même lorsqu'il voit les défauts de son prochain, il ne les expose pas, mais les couvre avec patience et bienveillance. Il supporte avec douceur ce qui pourrait irriter, il l'encourage sans brusquer, il corrige sans dureté et cherche toujours à établir la paix et l'unité. En vivant ainsi, le chrétien imite Dieu lui-même, qui est appelé le Dieu de la charité et de la paix. Ceux qui vivent de cet amour deviennent non seulement pacifiques, mais aussi artisans de paix, répandant autour d'eux la concorde et l'harmonie. Il s'ensuit que dans la vie commune, les âmes charitables sauront faire abstraction de leurs goûts ou de leurs conceptions trop personnelles pour mieux s'ajuster à la mentalité et à la psychologie de leurs frères. Il n'y a pas d'union profonde sans une certaine harmonie des pensées, des sentiments et des manières de vivre. Si la charité est un amour véritable, elle aura la force de s'assimiler pour tendre vers une concorde parfaite. Idem nolle et idem vele, c'est-à-dire vouloir la même chose et ne pas vouloir les mêmes choses. Le chrétien s'ajustera ainsi en quelque sorte sur l'âme de son prochain, s'adaptera à son comportement, entrera dans ses vues. Vous l'aurez compris, mes bien chers frères, la charité chrétienne dépasse de loin l'agapé païenne, au point d'en devenir surhumaine, surnaturelle. Il n'y avait que Dieu qui pouvait exiger un tel amour et faire aimer d'un tel amour, lui qui fait lever le soleil sur les bons et les mauvais. Mais cette charité infusée en nous au jour de notre baptême doit croître et grandir. Cette croissance ne peut être obtenue que par la grâce divine et elle est l'objet fondamental de la prière chrétienne. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans la charité, nous dit saint Paul. Voici ma prière, dit-il encore, que votre charité croisse de plus en plus. Comme on ne saurait jamais atteindre cette plénitude, la loi propre de la charité chrétienne sera de toujours tendre vers ce niveau d'héroïcité. Mais la mesure chrétienne de la charité restera éternellement celle d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer son prochain comme soi-même. Ainsi soit-il.